c'est Aude Vernuccio. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Épisode consacré aujourd'hui à un extraterrestre de la politique, ultra-populiste, ultra-libéral, Javier Milei a été élu président de l'Argentine.
Que ce soit clair, aujourd'hui commence une nouvelle ère pour l'Argentine. Que Dieu bénisse les Argentins. Merci beaucoup, ça va être difficile, mais on va y arriver. Et vive la liberté, bordel! Vive la liberté, bordel!
Un personnage haut en couleur, comment le Trump de la Pampa a conquis le peuple argentin, c'est maintenant dans Focus. Il y a à peine 2 ans, Javier Milei était un parfait inconnu dans la sphère politique, plutôt connu sur les plateaux télé comme polémiste. Il a su capter la colère du peuple, miné par l'inflation en multipliant les outrances, son outil fétiche pour illustrer son idéologie, une tronçonneuse. Des coups de tronçonneuse acclamés en pleine manifestation pour illustrer les coupes à venir dans les dépenses publiques. Lui qui se décrit comme anarcho-capitaliste s'oppose à la classe politique et même carrément au concept d'État. Les coupes ne vont d'ailleurs pas épargner les budgets ministériels. C'est en tout cas ce qu'il promettait pendant sa campagne.
Ministère du Tourisme et du Sport, ça dégage. Ministère de la Culture, ça dégage. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, ça dégage. Ministère de la Femme, du Genre et de la diversité, ça dégage. On va continuer avec celui-là. Ministère de l'Éducation, de l'Endoctrinement, ça dégage.
Des promesses déjà tenues, vous l'entendrez. Bonjour Flora Genoux.
Bonjour Aude.
Tu es la correspondante de RTL à Buenos Aires en Argentine. Alors derrière ces extravagances et ces slogans aux accents trumpistes, qui est vraiment Javier Milei?
Alors Javier Milei, c'est avant tout un économiste. Il a 53 ans, il a fait carrière dans des cabinets de conseil privés dans lesquels il défendait une vision plutôt, alors d'abord plutôt libérale de l'économie et ensuite ultra-libérale. Donc sa vision, c'est qu'il faut réduire les dépenses de l'État au maximum. Il a aussi donné des cours à la fac, il a publié différents papers, donc ce sont des écrits universitaires, et des livres. Et d'ailleurs, il a été accusé de plagiat par une revue argentine qu'il a découvert, et lui, il s'en est plus ou moins défendu en disant qu'il, s'il ne citait pas la source, c'était par souci de simplicité.
En l'espace de 2 ans, il a réalisé une OPA, si on peut dire comme ça, dans la vie politique argentine, de député à président. Comment expliquer cette montée fulgurante?
Alors, Javier Milei se fait d'abord connaître du grand public comme expert sur les plateaux télé. Il a un look particulier, un costume à rayures, des cheveux toujours décoiffés. Il regarde ses interlocuteurs avec ses yeux bleus profonds. Et là, c'est le spectacle assuré, parce qu'il utilise des formules choc, il est extravagant, il s'énerve, il insulte aussi parfois. Il sait aussi se montrer calme et pédagogue sur des questions économiques qui intéressent beaucoup les Argentins. Moi, la phrase que j'ai le plus entendue dans mes reportages, dans la bouche de ceux qui m'ont voté pour lui, c'est « on a essayé avec les uns ». On a essayé avec les autres, ça n'a pas marché. Donc les uns et les autres, ce sont les deux forces politiques qui structurent l'Argentine depuis des décennies, donc la gauche, ou plutôt le centre-gauche d'un côté, et la droite et le centre-droite de l'autre. Et si on regarde les bilans des 2 derniers gouvernements des 2 bords, eh bien c'est mauvais. Plus de dettes, plus de pauvreté, plus d'inflation. Et l'inflation, c'est bien ça qui épuise les Argentins.
Et on y reviendra en détail dans un instant, parce que c'est un point vraiment important pour comprendre le phénomène. Les Argentins sont aussi lassés des scandales de corruption, Flora?
Oui, c'est ça. Et en fait, ils veulent du nouveau. Je vous propose d'écouter Rodrigo, un livreur de 21 ans.
J'ai voté pour lui parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes gouvernements. Ils s'accaparent le pouvoir. Et aussi par ras-le-bol, surtout avec l'inflation. Je gagne 300 000, 350 000 pesos par mois et c'est une misère. J'arrive à vivre, mais au jour le jour. Milei, lui, est sur la bonne voie avec l'arrêt du déficit budgétaire et la fin des chantiers publics d'infrastructures. C'est un économiste qui montre qu'il est à la hauteur. D'abord, quand on lui pose une question, eh bien, il répond, et avec des arguments. Beaucoup de politiques cherchent à s'échapper. Ils ne répondent même pas aux questions. Lui-même l'a déjà dit, la différence entre un fou et un génie, c'est le succès, et il est en train de le prouver.
Clara prueba de Javier.
Juste pour le préciser, 300 000 pesos argentins, selon le taux actuel, ça représente environ 340 euros.
Donc les Argentins, ils voient débarquer une figure nouvelle, qui vient pas de la politique, qui fait des propositions concrètes, radicales, quand les autres forces politiques, eh bien, elles ne proposent rien de neuf. Et c'est comme ça qu'il arrive à séduire beaucoup d'électeurs. C'est aussi le cas d'Ignacio, 28 ans, qui travaille dans l'assurance, et de Christiane, 36 ans, vendeur ambulant.
Pourquoi j'ai voté Milei ? Parce qu'il propose un changement à la racine des choses. Je travaille depuis que j'ai 18 ans et c'est impossible d'épargner, de faire des projets. Ce à quoi on accède, ce sont des miettes. L'idée de réduire la taille de l'État, les dépenses publiques, atteindre l'équilibre fiscal, ça semble la base. Pour retrouver la croissance, avoir accès au crédit, voyager, tout ce que nous, les Argentins, ne pouvons pas faire aujourd'hui.
Lui, il a dit quel était son programme. Et il a expliqué les choses que personne ne nous expliquait. Les intérêts de la Banque centrale, l'émission monétaire et les dépenses publiques importantes et pas nécessaires. Évidemment, on espère tous voir l'économie se relever, avoir tous du travail et que l'inflation s'arrête.
Il y a aussi un acteur essentiel dans sa success story, ou plutôt une actrice de l'ombre, Flora, puisqu'elle ne prend presque jamais la parole, c'est sa sœur.
Oui, Karina Milei, elle a 50 ans. Alors les Argentins connaissent très bien son visage, hein, ses longs cheveux blonds, toujours calme et souriante en apparence, des yeux clairs comme son frère. Elle suit son frère partout, c'est elle le chef, comme l'appelle Javier Milei, au masculin, hein, le chef. Elle a une main sur tout. C'est elle qui décide qui entre et qui sort de l'entourage. C'est elle qui décide l'organisation des événements, les costumes que porte Javier Milei. Alors elle n'a pas d'expérience préalable en politique, elle est diplômée en relations publiques, elle a aussi été peintre et sculptrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Javier Milei, il nourrit une relation très fusionnelle avec elle. Il dit que c'est un être exceptionnel. C'est une relation qui trouve ses racines dans une enfance douloureuse. Javier Milei, il s'est ouvert des violences physiques puis psychologiques qui lui ont été infligées par son père. Et sa sœur, en fait, elle représente une forme de refuge. Donc elle a été nommée secrétaire générale de la présidence le jour de l'investiture de Javier Milei le 10 décembre, et pour ça il a dû modifier un décret qui interdisait de nommer à des postes de fonctionnaires des personnes de sa propre famille.
Et alors, à chaque leader d'extrême ses affinités. En France, on connaît la passion de Marine Le Pen pour les chats. Javier Milei, lui, est plutôt fan de chiens.
Oui, alors ces chiens, ils sont essentiels pour lui, hein. Il les remercie même dans ses discours publics. Il les appelle mes enfants chéris aux quatre pattes, lui qui n'a pas d'enfant et qui est en couple depuis quelques mois. Alors, il y a d'abord Conan, son chien adoré, qui est mort en 2017. Javier Milei dit que son chien Conan et sa sœur sont les deux seuls êtres au monde qui ne l'ont jamais laissé tomber. Et avant que son chien Conan meure, il l'a fait cloner aux États-Unis. Il a donc quatre autres versions de Conan aujourd'hui, qu'il a baptisé du nom de ses économistes libéraux préférés.
Ah oui.
Il les aime tant qu'il a fait graver leur gueule sur son sceptre, c'est-à-dire le bâton présidentiel que les présidents reçoivent le jour de leur investiture.
Alors, pour en revenir à son programme purement politique, Javier Milei, il a déclaré pendant toute sa campagne que l'Argentine était le pays le plus riche du monde au début du XXe siècle, mais que l'interventionnisme d'État l'a fait chuter à la 140e place. Et il se donne donc 35 ans pour refaire de l'Argentine la première puissance mondiale. Avec quelles mesures, Flora ?
Alors, ces mesures pour y parvenir, c'est remplacer la monnaie nationale, le peso, par le dollar, supprimer la banque centrale. Alors là-dessus, il a déjà mis de l'eau dans son vin, hein. Il remet ses réformes à plus tard. Ce qui n'est pas remis à plus tard, c'est la coupe drastique dans les dépenses publiques. Dès les tout premiers jours de son gouvernement, il a divisé le nombre de ministères par deux, donc c'était une promesse de campagne. Son gouvernement ne va pas engager de nouveaux travaux publics d'infrastructures, il ne va pas renouveler les contrats d'employés publics de moins d'un an. Il a aussi procédé à une très forte dévaluation du peso, c'est-à-dire que le peso perd de sa valeur, et ça, c'est censé assainir le taux de change qui est contrôlé depuis plus de 4 ans.
Et c'est vrai qu'il met beaucoup en avant cette image de paradis perdu, assez fantasmé, on le verra dans un instant. Le tout dans un contexte inflationniste record depuis 30 ans en Argentine. Je précise que cette inflation est 12 fois plus élevée qu'en France.
Oui, et les derniers chiffres viennent de tomber, 161% d'inflation sur un an, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Même si, il faut bien le rappeler, l'inflation est une maladie chronique en Argentine. Pour vous donner une idée, l'Argentine connaît une inflation à deux chiffres depuis 2007. Et ça, ça mine la vie de la population. Hein. Ça dévore les salaires qui ne suivent pas du tout le rythme. Et l'inflation, c'est surtout une machine à créer de la pauvreté. 40% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté et 6 enfants sur 10 en Argentine sont pauvres.
C'est donc un terrain fertile hein, donc pour ces idées populistes. On a vu quelles sont ses opinions en termes d'économie. Quel est son projet sociétal ?
Le cœur du projet de Javier Milei, hein, c'est l'économie. Mais sur le plan sociétal, il est opposé au droit à l'avortement qui a été arraché de haute lutte par les féministes en 2020. Voilà comment il justifie sa position.
C'est intéressant. C'est mignon que vous veniez me questionner sur ce culte de mon corps et ma propriété. Alors que justement, la science dit clairement que la vie commence au moment de la conception. C'est ça la vie. C'est un cycle avec deux principes sacrés, la conception et la mort. Alors bien sûr que je suis contre l'avortement, parce que c'est tuer un être en évolution, c'est un assassinat aggravé.
Anti-avortement et anti-féministe, hein, Flora.
Oui, il est clairement anti-féministe. D'ailleurs, il a totalement supprimé le ministère des femmes. Il a déjà dit « je ne vais pas demander pardon parce que j'ai un pénis ». Il est aussi climato-sceptique, il ne croit pas que le changement climatique est dû à l'activité humaine. Il s'est déjà aussi prononcé pour le port d'armes libre et a dit qu'il souhaitait lever toutes les régulations pour la vente d'organes.
Eh bien, ce serait ma décision. Dans quelle mesure je ne pourrais pas décider de ce que je fais de mon corps ? Qui suis-je pour m'y opposer ? Pourquoi pas ?
Autre point, il nie aussi l'ampleur des crimes commis sous la dictature militaire en Argentine, donc de 76 à 83.
Des arguments effectivement populistes, anti-avortement. Il y a aussi ces mots, le jour de son investiture, que Dieu bénisse les Argentins. Il a un lien fort, Javier Milei, avec la religion, Flora ?
Alors, ces mots-là, il faut les comprendre dans le contexte argentin. Les présidents en Argentine, ils prêtent serment sur Dieu et les saints évangiles. Donc, c'est un pays catholique, l'Argentine. Javier Milei, il se dit catholique, mais il ne met pas spécialement en scène sa croyance. Il faut aussi rappeler qu'il n'a pas hésité à insulter le pape dans le passé.
Le pape, je vais vous le dire franchement, c'est le représentant du mal sur terre, alors qu'il occupe le trône dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte que le pape propage le communisme ? Les États aussi sont une invention du mal. Et à chaque fois que vous appliquez l'idéologie socialiste, c'est en réalité vouloir créer un désastre. Donc je n'ai aucun problème à dire ce qu'il y a à Rome, c'est consternant.
Donc depuis ces propos-là, il s'est largement assagi, il a échangé calmement avec le pape après son élection. Ce qu'il met en avant, c'est plus sa spiritualité et son lien intime avec le judaïsme.
Ah oui.
Il étudie la Torah avec un rabbin. Il se dit grand admirateur du peuple juif. D'ailleurs, il comptait se rendre en Israël avant son investiture, mais bon, ça n'a pas été possible. Mais il est allé se recueillir sur la tombe d'un rabbin célèbre à New York. Il dit qu'il ne compte pas se convertir parce que ce serait trop compliqué d'observer Shabbat, par exemple, en étant président. Mais dans son discours d'investiture, il a cité la fête des Lumières juives Hanouka qui tombait en plein pendant sa prise de fonction. C'était une façon pour lui d'expliquer qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Je rappelle que l'Argentine compte la plus importante communauté juive d'Amérique latine.
Avec nous également Nadia Tahir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Argentine, vous êtes maître de conférence à l'université de Caen. Quand Javier Milei dit que l'Argentine est passée de numéro 1 à 140e puissance mondiale, c'est vrai ou c'est faux ?
Ça fait partie des mythes qui circulent en Argentine, plutôt dans la classe politique, un peu moins chez les historiens et encore un peu parfois chez certains économistes, depuis de nombreuses années, notamment quand ça va mal, comme c'est le cas actuellement. C'est en fait faux. En tout cas, c'est ce que disent la plupart des économistes et beaucoup de politologues et historiens sur la fin du 19e et du début du 20e. Il fait référence à notamment un économiste états-unien qui, à l'époque, avait dit tout ce que l'Argentine pourrait être si elle continuait dans la dynamique dans laquelle elle était. Et effectivement, c'était un moment où l'Argentine avait ce qu'aujourd'hui on appellerait un PIB tout à fait plus que satisfaisant, c'est-à-dire qui promettait effectivement une croissance régulière. Mais la question, c'est qu'on ne calculait bien entendu pas du tout les choses comme aujourd'hui. Il y a énormément de statistiques qu'on ne prenait pas en compte.
Comme par exemple les facteurs de développement, le système de santé, d'éducation, c'est ça ?
Complètement. À l'époque, c'était des continuations de travail qui parfois étaient à la lisière de l'esclavagisme. Vous aviez effectivement une vague de migration très forte qui arrivait, mais qui n'arrivait pas toujours dans des bonnes conditions. Il y avait aussi la question de l'endettement, qui n'était pas du tout calculé comme aujourd'hui, mais qui justement commençait déjà à cette époque-là. On était sur une industrialisation très naissante, mais qui était très liée justement aux emprunts que faisait la Grande-Bretagne à l'Argentine et à comment il y avait un lien qui était noué entre les deux économies. Donc, en fait, on est sur des conditions qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Donc la comparaison est difficile même à concevoir ou à entendre ou à comprendre. Mais ça fait partie de ces mythes qu'on ne comprend pas pourquoi l'Argentine, ça n'est pas le Canada, ça n'est pas l'Australie ou ça n'est pas le Brésil. En ne prenant pas en compte que les régimes politiques, les réformes n'ont rien à voir et que surtout le système économique argentin est très différent.
Et puis c'est un argument qu'on connaît bien dans la bouche d'un autre ancien président, Donald Trump, qui prônait le fait de rendre sa puissance à l'Amérique.
Tout à fait, oui. En fait, c'est-à-dire que la comparaison avec Trump, par exemple, elle me semble parfois un peu tirée par les cheveux. Bon, effectivement, deux hommes qui ont une coiffure un peu fantasque, mais c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est juste que, effectivement, Trump avait quand même un appareil derrière lui, qui est le Parti républicain. Donc il a été investi, c'est très différent. Avec Milley, on est quand même sur quelque chose qui... C'est aussi ça qui fait que c'est une surprise. C'est qu'on est sur un homme qui n'avait pas d'appareil, c'est ce qu'a très bien dit votre journaliste Flora tout à l'heure. Il était député il y a deux ans et tout d'un coup il est président. L'effet de surprise, il est là-dessus et c'est ce qui le différencie vraiment très clairement de figures comme Trump ou Bolsonaro au Brésil. Maintenant, effectivement, la ressemblance, elle est sur le côté fantasque, hein, de ces figures-là, et qui fait du bruit, qui laisse entendre qu'on va dire la vérité. Effectivement, cette idée de « avant, c'était mieux, et maintenant, ça va être mieux avec moi ».
Alors, Flora nous a parlé de ces propositions drastiques, extrêmes, en tant que nouveau président. Est-ce que dans les faits, il va pouvoir les appliquer, passer du peso au dollar, supprimer la banque centrale, c'est faisable, ça ?
Ce que Flora a déjà signalé, c'est qu'effectivement, il a déjà mis un peu d'eau dans son vin, et notamment sur ce qui était son gros argument de programme économique, la dollarisation. On sent qu'effectivement la faisabilité, de toute façon, c'est ce que beaucoup d'économistes signalaient, c'est que c'était probablement le pan de son programme qui était le plus infaisable. D'autres éléments, il est en train de les mettre en place. Là, il a officiellement nommé ses ministres. Donc on est passé effectivement de 18 ministères à 9. Le ministère de la Femme, du Genre et des Diversités, en fait, il n'a pas disparu. Il a été absorbé par un super ministère qui s'appelle le ministère du Capital Humain, où là-dedans, il y a de tout. Vous avez l'éducation, la culture, le travail, donc les femmes, sur un super ministère où il y aura de tout. Donc ça, oui, il l'a fait. Il y a effectivement une libéralisation de l'économie qui est en route. C'est-à-dire que toutes les aides, ou presque, qui avaient été mis en place sur le gouvernement précédent, sont retirés ou vont être retirés à une échéance très courte. La dévaluation aussi vient d'être mise en place, comme ça a été dit, avec un discours qui est maintenant, et ça il ne l'avait pas tellement en fait pendant la campagne, il le disait partiellement, mais pas comme il le dit depuis qu'il est élu. Maintenant ça va être difficile, il faut tenir pendant un temps, et ensuite ça ira mieux. Mais le difficile, il va être très difficile. C'est ce que ça laisse entendre, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit, puisque on a déjà depuis quelques jours une inflation qui est en train de s'accélérer encore plus, surtout sur l'essence, sur la viande, sur les produits de base, en fait.
Est-ce que les Argentins, finalement, vont accepter de sacrifier un peu plus leur porte-monnaie ? Est-ce qu'ils ont assez confiance en lui pour lui laisser du temps ?
La question, je lisais un article il y a quelques jours qui disait « l'austérité, c'est très bien du moment que ça ne me touche pas, moi ». Donc la question, c'est jusqu'à ce que ça va affecter progressivement chaque couche de la société. Là, il va maintenir certaines aides, hein, il l'a bien signalé, notamment pour les classes les plus populaires. Les classes moyennes vont très clairement en prendre un coup, mais très rapidement.
Finalement, il va aussi devoir composer avec quelque chose qu'il dénonce, la caste politique.
Bah, il va pas devoir composer avec, il a carrément signé un contrat avec. Et d'ailleurs, il a perdu certains de ses fidèles dans son parti politique, la Liberté Avance, la Libertad Avanza. Il y en a certains qui l'ont quitté parce qu'il s'est rapproché très clairement de celui qui a été président de la République de 2015 à 2019, Mauricio Macri. La candidate qui était arrivée troisième de la droite conservatrice, Patricia Bullrich, est maintenant sa ministre de la Sécurité. C'est probablement ce sur quoi il a le plus cédé d'un coup. Non pas qu'idéologiquement les différences étaient tellement grandes, mais de voir comment les deux, pour pouvoir gouverner, finalement se sont très rapidement retrouvés. Et c'est ça qui l'a fait gagner, très clairement. C'est le report de voix de la droite conservatrice.
On voit aussi dans son idéologie, dans ce qu'il défend, un discours négationniste, Flora le disait. Il reprend certains éléments de la dictature dans son discours général.
Complètement. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est, alors, en Argentine, on parle parfois de négationnisme. Il y en a qui disent que c'est du relativisme. Techniquement, il ne nie pas les crimes de la dictature. Il ne nie pas qu'il y a eu des disparitions forcées de personnes, qu'il y a eu des assassinats. Par contre, ce qu'il signale, c'est que ce sont des excès ou des erreurs de certains militaires C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de systématique qui faisait partie d'un plan mis en place par la dictature. On questionne les chiffres, on ne les nie pas, on questionne aussi. Vous voyez, donc les organisations de défense des droits de l'homme parlent de 30 000. Lui revient à un chiffre, quel est le chiffre officiel, ce qui est celui de 8600 quelque chose, qui est en fait celui d'une commission vérité. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, il y a un peu cette idée-là, et qu'au milieu, il y a des erreurs, effectivement, qui ont été commises.
Dernière question, est-ce qu'il y a une opposition suffisamment solide en face pour s'opposer à certaines de ces prises de position extrêmes ou certaines de ces mesures jugées extrêmes?
Un des acteurs qui va être intéressant à voir, c'est les syndicats. Savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont réussir ou pas à mobiliser dès que, très rapidement, le pouvoir d'achat va être affecté, que déjà beaucoup de gens au service de l'État vont se retrouver au chômage, puisqu'ils vont supprimer pas mal de ministères ou de postes. De l'autre côté aussi, à partir du moment où les entreprises, puisque maintenant elles vont avoir beaucoup plus les mains libres, vont peut-être commencer à licencier, il va falloir voir si la mobilisation sociale va être significative, rapide et suivie. Et un acteur clé, qui est un des partis les plus traditionnels de l'Argentine, même le plus vieux, qui s'appelle les radicaux, l'Union civique radicale, va aussi jouer un rôle important. Mais face à Milei, ils ne sont pas tous d'accord non plus. Donc en fait, on est sur un échiquier politique qui est très éclaté. À quel moment est-ce qu'il y aura possiblement des mobilisations? Quand est-ce qu'elles vont être suffisamment fortes pour contrepeser face à ce gouvernement? Je ne sais pas. Mais il y a des acteurs, en tout cas.
Merci Nadia Tahir, spécialiste de l'Argentine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Flora Genoux, notre correspondante à Buenos Aires. C'est la fin de cet épisode de Focus. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à écouter d'autres épisodes sur RTL, sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. À très vite.